Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Sept compagnons créèrent en 1848 une fraternité dont est issue une véritable révolution esthétique dirigée contre l'académisme d'un certain art anglais. Vous connaissez peut-être les noms de trois des plus célèbres de ces pré-raphaélites: Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, John Everett Millais. Leur entreprise va changer radicalement les fondements conventionnels de l'esthétique victorienne. L'effet de leurs œuvres étranges, sensuelles et chastes à la fois, religieuses et agnostiques, nostalgiques et anarchistes, concernées par la réalité sociale du monde et réfugiées dans des palais rêveurs, va se perpétuer jusqu'à l'aube du XXe siècle. Cette mutation esthétique et poétique, habitée par les mythes et les poètes, va influencer durablement les arts décoratifs, la photographie, et ces échos se feront sentir bien sûr dans l'apparition de l'art nouveau, mais aussi trouvera des résonances dans la contre-culture du flower power des années 60, dans les images ambiguës diffusées par David Bowie ou Gilbert et George, jusque dans la culture queer que vous abordez, puisque pour parler de cela, j'ai le plaisir de vous recevoir, Aurélie Petiot. Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Merci de me recevoir.
Vous êtes docteur en histoire de l'art de l'Université de Cambridge, c'est très impressionnant. Vous êtes maîtresse de conférences à Paris-Nanterre. Vous avez aussi travaillé sur la correspondance de Turner. Vous êtes aussi intéressé à Gilbert et Georges, dont je parlais à l'instant. Ces sculptures vivantes, évidemment, merveilleux artistes anglais. Et vous vous intéressez au gender study et à plein d'autres choses. Et vous avez l'impression, vous nous donnez l'impression que ces thèmes sont tous présent dans l'univers pré-raphaélite, et vous sortez à l'instant, si j'ose dire, un livre, Les pré-raphaélites, chez Citadel Masno. Un magnifique livre, extraordinairement bien illustré, dans lequel il y a une correspondance entre les illustrations et l'écriture qui fait qu'on se plonge dans tous les thèmes que vous abordez. Ils sont riches et ils vont bien au-delà de ce que l'on imagine quand on étudie un peintre ou quelques peintres.
Merci. Oui, c'est toute la difficulté de définir le pré-raphaélisme. Souvent, on me demande comment définir ce mouvement. Et c'est en fait un mouvement qui est très protéiforme, qui évolue très vite, des années 1848 à 1860, puis au-delà, et qui met en œuvre des thèmes qui perdurent jusqu'à la fin du mouvement, mais qui néanmoins sont traités de façon tout à fait différente en fonction des artistes, en fonction de leurs influences, de leurs voyages, de ce qu'ils voient également aussi en France, par exemple, en Italie.
Quand vous dites jusqu'à la fin du mouvement, ça se termine à peu près quand ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs soubresauts, en tout cas, dans l'histoire du pré-raphaélisme.
Oui, alors en général, on donne 1905 comme la date de fin du mouvement, puisque le dernier membre, William Holman Hunt, décède à ce moment-là.
C'est la naissance du fauvisme qui l'a fait s'effondrer d'une crise cardiaque ?
Alors c'est plutôt la naissance du modernisme en Angleterre qui rejette ces peintres comme étant proprement victoriens, donc attachés à des codes dont ils veulent se débarrasser.
Pourquoi est-ce qu'ils s'appellent pré-raphaélites ?
Parce qu'ils veulent retourner à un art d'avant Raphaël. Donc ils considèrent que
ils
non pas l'art
que c'est
de Raphaël,
ringard, Raphaël hein, ou quoi ?
Non pas l'œuvre de Raphaël, mais l'œuvre de ses suiveurs,
ah oui,
qui devient beaucoup trop
pompeuse.
Pompeuse, voilà.
Artificielle.
Artificielle, à la fois dans les couleurs, mais aussi dans le dessin. C'est pour ça que dès 1848, ils essaient de développer une technique de dessin qui s'appelle l'outline, qui travaille le trait très fin et dans des formes assez rigides, assez verticales souvent. Et une composition souvent en frise également, qui tranche avec les compositions que l'on connaît, très pyramidales des œuvres de la Renaissance.
Alors dites-moi, on est en 1848, l'Europe est en ébullition, l'Angleterre est en ébullition, on est dans un moment politique particulier, il y a un an qu'a été publié le manifeste du Parti communiste de Karl Marx, il y a des revendications dans toute l'Angleterre, et pour les femmes et pour le suffrage universel, etc. Et puis tout d'un coup, ces gens qui sont au cœur de cet univers victorien, c'est-à-dire le triomphe de la société industrielle et puritaine de l'Angleterre qui a pris 30 ans d'avance sur la France à ce moment-là, eh bien ces gens se réfugient dans le refus de la société industrielle, dans le refus des usines, dans le refus du progrès.
Tout à fait, dans le refus des conventions, surtout pour la première phase du mouvement, et ensuite pour les arts décoratifs qui viendront en parallèle de la pratique picturale des peintres, donc dans un refus des conventions qui s'associera ensuite à un refus de la production industrielle, à un retour vers une production jugée morale qui ne déshumanise plus l'homme, selon les mots de John Ruskin, et qui permettrait, puisque c'est une pratique assez utopique, de donner du bonheur à la fois à l'ouvrier qui réalise l'objet et à la fois à la personne qui le possède. Malheureusement, la plupart des créations de ces artistes ne seront pas accessibles au peuple pour lesquels elles étaient destinées.
Oui, c'est un moment assez intéressant. Alors, je propose que on écoute votre définition dans le livre, donc sur les pré-raphaélites, publié chez Masno, à l'instant. Écoutons votre définition tout de suite de ce que vous dites être les pré-raphaélites, et ensuite on verra un petit peu les réactions. Je précise simplement que vous avez parlé d'un critique d'art très célèbre, John Ruskin, pour peut-être simplement dire qu'il a été traduit par Proust pour une partie de son œuvre, hein, donc, et puis il a été le compagnon de route, en tout cas au début, de cette aventure dont on vient de parler. Nous vous écoutons.
Les pré-raphaélites n'établissent pas de hiérarchie entre les différents éléments du tableau, tous traités avec la même précision, et subvertissent la notion de genre au cœur du programme de la Royal Academy, de la peinture religieuse à la peinture narrative. Ils développent un style qui leur est propre, fondé sur l'observation minutieuse de la nature, qui sert de fondement à un réalisme symbolique. Les sources archaïques dont ils s'inspirent, loin d'être une simple imitation, servent à proposer un commentaire moral sur la société victorienne. Ils placent le spectateur dans une démarche empiriste, caractéristique de l'époque victorienne, lui laissant le soin de déchiffrer les indices et d'en tirer des conclusions.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez évidemment l'art et la matière, et nous sommes en train de parler des pré-raphaélites anglais. Je suis avec Aurélie Petiot et nous sommes en train de discuter et d'essayer d'explorer la façon dont ce petit groupe s'est rencontré. Il y a trois personnages quand même majeurs dans ce petit groupe, hein, il me semble, qui sont un petit peu la colle du début.
Oui, alors il y a John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti et William Holman Hunt.
J'adore votre accent anglais, il est parfait. Et alors, ils sont connus comment ?
Ils se connaissent à l'école de la Royal Academy, qui a été fondée en 1768 pour donner une éducation gratuite, mais une éducation aussi artistique importante, pour contrer le système d'éducation sur le continent, notamment les écoles de beaux-arts français. Et ils s'y rencontrent alors qu'ils sont tous les trois assez précoces. Alors il ne faut pas oublier non plus d'autres membres du groupe qui disparaissent assez rapidement.
Oui, parce que je dis qu'ils sont sept, mais en fait, on parle toujours des trois mêmes. Hein. Mais les quatre, ils sont là. Pourquoi est-ce qu'ils s'éloignent ?
William Michael Rossetti ne s'éloigne pas vraiment, mais...
C'est le frère de Gabriel.
Donc il est peut-être un peu moins doué artistiquement, et il va s'occuper surtout de faire la publicité du groupe, puisque c'est l'un des atouts majeurs de ce groupe, c'est de savoir se mettre en scène. Donc il deviendra critique d'art.
Est-ce que c'est lui qui... Il y a une liste de préceptes qui est lancée par les pré-raphaélites et qui est une sorte de charte personnelle, morale quasiment, de la morale esthétique.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ?
Alors, elle est écrite un peu a posteriori par William Michael Rossetti. Elle a pour principe donc de mettre en avant la sincérité de l'art,
oui.
la fidélité à la nature, sur laquelle on viendra certainement, et viser une forme de perfection.
La perfection, elle est dans la sincérité, en fait. Hein. Il y a une idée d'absolu tout de suite chez eux.
de sincérité dans la représentation, que ce soit les portraits, qui ne sont plus des portraits idéalisés, mais des portraits souvent réalisés avec des modèles qui font partie de leur cercle, amical ou familial ou artistique.
Mais là, j'arrive pas tout à fait à vous croire. C'est-à-dire que quand vous dites que les portraits qu'ils font sont des portraits de leur environnement, de leurs amis ou de leurs épouses, ça je le ressens tout à fait. Mais il y a une telle homogénéité de visage entre les différents modèles que l'on rencontre qu'on n'a pas l'impression que c'est réaliste, mais plutôt idéaliste. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors je pense que c'est plutôt réaliste quand on connaît les visages des artistes, par exemple, qui s'utilisent les uns les autres aussi pour ne pas avoir à financer des modèles professionnels. On les retrouve comme dans certains tableaux, par exemple dans Isabella et Lorenzo, oui. Où on reconnaît très rapidement les...
Vous les reconnaissez l'une et l'autre, oui. Quand vous regardez les tableaux.
Oui, on reconnaît certains membres de la famille, notamment Christina Rossetti, qui posera, donc qui est la sœur de Dante Gabriel et William Steven, et qui posera pour de nombreux tableaux, notamment ceux religieux, sur l'Annonciation faite à Marie.
Alors je regardais, en ouvrant le livre tout à l'heure, je regardais le début du livre et il y a un portrait fait par William Holman Hunt, on va l'appeler Hunt, qui est le portrait de Dante Gabriel Rossetti. Alors ça, j'adore ce portrait parce qu'il est, c'est un ovale, donc il devait être encadré en ovale à l'origine, et c'est un tableau rectangulaire, mais il devait être encadré en ovale. Et on sent, le visage est tendu vers le bas, les yeux sont levés, et on sent un immense regard rêveur totalement intérieur, qui fait penser un petit peu à ce que l'on connaîtra dans la photographie surréaliste, les visages de Soupeau, où c'est les visages de rêveurs éveillés du surréalisme, non ?
Alors, je n'avais pas du tout fait le lien, mais en effet, je pense que ces œuvres qui sont du début de la confrérie, mais vers 1850, qui sont réalisées comme un cadeau à l'un des membres qui part vers l'Australie, sont aussi une façon de se montrer au monde, de se montrer en tant que ces peintres rebelles qui n'ont pas justement la palette, les attributs du peintre comme on peut les en connaître dans les portraits traditionnels de peintres, et qui posent aussi Rossetti comme vraiment ce chef de file très déterminé. Moi, ce qui me frappe surtout dans ce portrait, c'est la détermination qu'il a dans son regard. Ouais. On peut en avoir une interprétation différente, mais et surtout le style de Hunt que l'on reconnaît. Peut-être que c'est sacrilège de dire cela, mais il a une façon de représenter les yeux de façon assez globuleuse que l'on reconnaît dans d'autres tableaux. Et ces trois portraits que l'on a au début du livre sont aussi une sorte de manifeste esthétique du style assez différent, même si vous avez raison, quand on voit les œuvres pré-raphaélites, on reconnaît un style, on reconnaît des traits, aussi parce qu'ils utilisaient souvent les mêmes modèles, mais c'est une sorte de manifeste de chacun de leur style qui reste néanmoins très, très pré-raphaélite.
Alors, quand vous dites pré-raphaélite, il y a un point, par exemple, je pense à un autre tableau de Hunt qui n'a rien à voir, on en parlera tout à l'heure, mais parce que je voudrais revenir sur comment ils se sont rencontrés, la légende de celui-là qui a eu une mention quand il avait 9 ans pour un prix de dessin, enfin tout ce que vous allez nous dire. Mais il y a quand même, quand on voit ce portrait extrêmement beau, hein, sur ce fond bleu, déjà ces portraits sur des fonds très colorés, on va les voir réapparaître comme des silhouettes magnifiques dans beaucoup de tableaux. Et puis, il y a cette façon de peindre les cheveux, mais quasiment cheveux par cheveux. On a l'impression qu'ils ont une technique. Qu'est-ce qu'elle est, cette technique ?
Alors, c'est une technique qu'on retrouve aussi dans la représentation de la nature. C'est ce qui fait partie de ce qu'ils appellent la sincérité, la fidélité à la nature. C'est donc souvent, à l'aquarelle et à l'huile, une façon de représenter fil par fil, poil par poil, pour la toison des moutons, par exemple, la chevelure, le mouvement, aussi les tonalités, et ça se retrouvera beaucoup dans la peinture de paysage plus tard. Donc une fidélité à la nature, ne pas idéaliser, toujours montrer la personne telle qu'elle est, même si parce que c'est en portrait, mais dans les tableaux plus d'inspiration plus médiévale ou mythologique, il y a une certaine forme d'idéalisation.
Vous dites dans le livre, parce qu'il y a 1000 détails comme ça croustillants, vous dites dans le livre qu'il se sert d'un pinceau à deux poils fait pour l'aquarelle normalement, voilà. Et il peigne à l'huile avec des pinceaux d'aquarelle.
Voilà.
Et puis il y a une technique sur le fond. Je ne sais pas si vous parlez du fond. Racontez-moi.
Alors il peigne à l'huile comme avec l'aquarelle et à l'aquarelle comme avec l'huile sans la diluer, ce qui donne un rendu très mat et très assez épais. Et le fond blanc, c'est également une des légendes du pré-raphaélisme. Il y en a énormément qui président.
C'est-à-dire qu'ils peignent sur fond blanc.
Ils peignent sur fond blanc pour faire éclater la lumière. C'est une technique dont ils disent qu'elle vient de Van Eyck, mais aussi qu'ils essaient de présenter comme leur invention. d'autres peintres anglais avaient avant eux essayé, donc William Mulready par exemple, avait essayé cette technique pour faire ressortir les couleurs, pour que c'est aussi une technique qui...
Mais quand vous dites, pardon, mais quand vous dites qu'ils peignent sur fond blanc, c'est-à-dire qu'on peignait sur quel fond auparavant?
Ah, sur un fond plutôt brun auparavant.
Ou rouge,
ça, voilà, ça dépend. Là, ce sont des toiles qui sont préparées spécifiquement par les marchands chez lesquels ils les achètent pour avoir donc ce premier fond blanc sur lequel ils dessinent ensuite et sur lequel ils peignent.
Et alors, vous dites que dans le livre, vous dites qu'ils font travailler le tissage de la toile pour qu'elle soit poncée, et ensuite ils travaillent le gesso pour que ça soit comme du carton, vous dites. Hein.
Voilà. Toute l'idée, c'est vraiment de faire accrocher la lumière avec des pigments qui sont aussi souvent des pigments inventés au 19e siècle. Donc, des verts émeraudes, des jaunes, qui ne vont pas se ternir avec le temps, pour également montrer leur modernité. Mais aussi pour, ils sont très conscients de la pérennité de leur œuvre. Et, surtout Hunt, dont on vient de parler avec son portrait, Hunt fait des tests dans son laboratoire pour voir si ses couleurs vieillissent, si le jaune s'obscurcit par exemple, parce qu'il veut laisser une trace, il veut que ses œuvres restent. Et les témoignages des rapports de conservation montrent que ce que le spectateur voit au XXIe siècle est à peu près ce que le spectateur du XIXe siècle voyait.
Et c'est vrai que les couleurs, quand on est dans les expositions et qu'on voit les tableaux, sont d'une intensité incroyable. Oui. Hein, c'est vraiment, et ils ont gardé une fraîcheur qui n'est pas simplement due à un revernis comme on en a parfois dans les musées anglais.
Non.
Alors, juste une question avant de... Parce que vous parlez de quelque chose qui, je crois, est très important, et j'ai un ami, Gilles Depoix, qui va être passionné par votre réponse. Vous parlez de l'influence de Van Eyck. Comment ça se fait que Van Eyck ait une influence sur ces artistes à ce moment-là?
Parce que son tableau « Les époux Arnolfini » est acquis par la Royal Academy, donc la galerie d'exposition qui fonctionne avec la Royal Academy Schools, où ils font tous leur scolarité, est acquis...
À peu près en 1847, par là,
voilà,
46-47.
Au moment où eux sont en train de commencer leur pratique artistique et leur véritable éducation formelle. Et cette toile aura vraiment une importance majeure. Je crois que c'est Rossetti qui la dessine et qui en fait des maquettes chez lui, qui reproduit les œuvres de la National Gallery en faisant une mini-maquette de la galerie pour son occupation personnelle. Comme
alors, Van Eyck, c'est aussi un technicien incroyable. Mm-hmm. On dit que c'est la légende en fait l'inventeur de la peinture à l'huile. Mais surtout, j'ai l'impression que c'est le travail du détail qui vous intéresse chez lui, ou du récit. Racontez-moi, qu'est-ce qui peut influencer chez Van Eyck ces artistes-là?
Alors, c'est effectivement le travail du récit, puisque... pour moi, mais surtout pour les spécialistes britanniques des pré-raphaélites, le principe qui conduit à leur production est vraiment le principe de la narration. Donc, des toiles qui doivent se lire, j'utilise beaucoup ce mot dans les livres, se décrypter avec des indices qui vont permettre au lecteur de comprendre ce qu'il se passe sans forcément qu'il, enfin au spectateur surtout, sans forcément qu'il ou elle puisse, ou une connaissance de la légende ou du sujet dont sont inspirées les toiles.
C'est amusant, vous dites le lecteur, parce qu'en fait c'est un regardeur, bien entendu, mais c'est vrai que ces tableaux se lisent, c'est-à-dire que les tableaux des pré-raphaélites sont une somme de détails qu'il faut décrypter, et je crois que c'est Ruskin qui disait qu'il fallait les regarder millimètre par millimètre.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils sont peut-être d'abord plus difficiles pour un spectateur français du XXIe siècle, puisque certains indices ne sont pas forcément évidents. Et les reproductions du livre permettent vraiment de s'attarder sur de nombreux indices, symboles, puisque le symbolisme, mais pas le symbolisme qu'on connaîtra plus tard, mais le symbolisme, donc la lecture que l'on peut faire d'un objet qui amène un autre sens, est extrêmement importante dans ces toiles. Et une fois qu'on les a vues, on a du mal à s'en défaire.
C'est-à-dire que vous arrivez à lire une toile avec, non pas son symbolisme, mais sa symbolique, en quelque sorte. Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples qu'on comprenne bien? Est-ce que vous pouvez prendre n'importe quel tableau puis nous dire, bah, ça c'est ça, ça c'est ça? Faites-moi
leçon. Un de mes tableaux préférés, c'est celui de John Everett Millais, qui raconte la légende d'Isabelle et Lorenzo. Et on voit dans ce tableau une table de banquet où sont assis d'un côté les deux frères d'Isabelle et d'autres personnages, et de l'autre côté Isabelle et Lorenzo. La légende veut que les deux frères s'opposent à l'union de Lorenzo, qui est leur clerc, à Isabelle, et vont donc faire tuer le jeune page. qu'ils enterreront dans la forêt. Isabella, étant mise au courant de la fin tragique de son amant, ira déterrer le corps. Et étant une frêle femme, elle n'en pourra déterrer que la tête, qui sera ensuite, selon la légende, plantée dans un pot de basilic qu'elle garde dans sa chambre. Et dans ce tableau, on a tous ces éléments. On a non seulement la cour que se font Isabella et Lorenzo, mais également le pot de basilic derrière la tête d'Isabella, qui annonce le sort funeste de Lorenzo. Également la fleur de la passion, la passiflore, qui est un élément botanique récurrent chez les pré-raphaélites, qui annonce, placée juste au-dessus de la tête d'Isabella, les souffrances qu'elle va encourir. Et là, ce n'est pas moi qui ai trouvé ce symbolisme, mais un critique britannique qui voit dans le casse-noisette que tient l'un des frères et l'ombre portée qui tombe juste à son entrejambe, l'action castatrice qu'il aura sur le jeune page, et qui préfigure également sa mort violente.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut prendre le tableau, là, ce repas, qui est une sorte de vision synthétique de tout un récit, de tout un poème, de tout un... Et que, détail après détail, on pourrait reconstituer toute l'histoire. Mais
tout
à condition de la savoir, c'est quand même une peinture cultivée, la pittora colta, comme on disait.
Tout à fait. Mais à l'époque victorienne, ce sont des thèmes qui sont repris dans la littérature romantique, dont les pré-raphaélites sont très friands et qu'ils posent comme modèle dans leur liste des immortels, des premières listes.
Ah, c'est amusant ça. Vous pouvez nous raconter là, les immortels, c'est quelque chose d'assez invraisemblable. C'est cette vingtaine de noms qui manifestent.
Voilà, alors on parlait tout à l'heure d'un manifeste. Il n'y a pas vraiment de manifeste pré-raphaélite. Il y a juste cette lettre des immortels qui sont souvent les auteurs dont les pré-raphaélites sont friands, qu'ils érigent en modèle. On y trouve aussi Raphaël. Donc c'est vraiment, le nom n'est pas une critique du peintre, mais de ses suiveurs. Des peintres italiens, des peintres français comme Poussin, mais aussi beaucoup d'auteurs britanniques.
Poussin, alors là, ça va faire plaisir. Ça va pas faire plaisir, ça va lui faire de la peine à Pierre Rosenberg qui ne vit que pour Poussin. Il n'a pas d'étoile.
Poussin n'a pas d'étoile.
Donc les chefs étoilés, ils ont 3 étoiles, 4 étoiles. Voilà. Il y en a un qui a 4 étoiles, c'est Jésus.
Jésus a 4 étoiles.
Alors qu'ils ne sont pas croyants. Hein.
Ils ne sont pas croyants. Leur croyance aussi, on peut. Hunt reste croyant. Ça se retrouve dans sa peinture de paysage. Les autres, moins. Leur position est assez complexe sur le sujet.
Mais alors, en dehors de Jésus, qui est forcément un peu hors concours, les autres, ils ont entre 3 et pas d'étoiles. Mais le fait d'être cité, même sans étoile, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, puisqu'il y a une trentaine de noms maximum sur cette liste, qui sera avec The Drum, donc la revue qui est très éphémère qu'ils vont écrire, la seule manifestation d'une intention esthétique, puisque sinon ils n'ont
alors,
pas de...
Dites-moi simplement, Shakespeare, il a des étoiles ou pas?
Oui, Shakespeare a 3 étoiles.
Et est-ce qu'il y a un peintre français qui a des étoiles?
Pas à ma connaissance.
Et un peintre allemand?
Non plus.
Je vous pose la question sur un peintre allemand parce que il y a un mouvement finalement assez proche des pré-raphaélites, il me semble, qu'on appelle les Nazaréens, et qui ont une vingtaine d'années ou une trentaine d'années auparavant ont pris une direction un petit peu semblable. Vous pourriez nous en parler quelques instants et nous les comparer, les...
Oui, alors c'est un groupe de peintres allemands qui s'appelle la confrérie de Saint-Luc. Donc on retrouve l'élément de confrérie, qui sont appelés nazaréens parce qu'ils adoptent des robes très lâches qui font penser à la tenue de Jésus. Et ils vont à Rome. Eux aussi s'érigent contre l'académie allemande et essaient de développer une esthétique qui se rapproche du gothique. Donc avec des cadres et des éléments architecturaux dans leurs portraits souvent, qui sont d'inspiration gothique, avec un travail également sur le trait, sur la précision, des compositions qui restent assez plates. Et c'est Brown, l'un des membres un tout petit peu plus âgé que les 3 membres fondateurs, qui les rencontrera à Rome et qui ramènera leur influence en Angleterre.
Donc vous pensez que les Nazaréens ont influencé à ce moment-là les pré-raphaélites, ou c'était dans l'air du temps, ce goût pour le Moyen-Âge?
Alors c'est tout à fait dans l'air du temps, hein, puisque les grands travaux de reconstruction du Parlement qui avait brûlé a insisté sur l'héritage gothique de l'Angleterre. Mais je pense vraiment que c'est Brown qui ramène cette influence. Il y a d'autres influences italianisantes, des gravures par exemple de Carlo Lasignu, voilà.
Ah, ça c'est, alors c'est des gravures qui ont été faites à partir des fresques de Pise, c'est bien
voilà.
Ça?
Et eux, on n'ont accès qu'aux gravures, mais dans la légende de la construction du mouvement, Et on parle de légende puisque les témoignages sont souvent a posteriori, réécrits souvent par Hunt, qui insiste beaucoup sur la prééminence qu'il a dans la construction du mouvement. Ces légendes racontent qu'ils se rencontraient dans un petit atelier de l'un des peintres et que c'est à ce moment-là qu'ils ont adopté le nom pré-raphaélite parce que leurs amis se moquaient d'eux en disant que leur esthétique retournait à... Donc c'est presque une blague. En fait. Voilà.
Mais alors ce qui est frappant dans les... Dans la façon dont ils sont inspirés de ce graveur qui reproduisait les fresques du cimetière de Pise, extraordinaire, c'est que le trait est incroyablement coupant, insistant. Hein, c'est un trait très particulier. Et c'est ça que vous appelez le outline qui va caractériser le dessin pré-raphaélite ?
Tout à fait. C'est ce que Colin Cruz, qui est l'un des spécialistes du dessin pré-raphaélite, appelle l'outline, en montrant que cela caractérise leur production des débuts. Encore une fois, c'est un style qui va évoluer. Mais c'est une manière de dessiner qui est très précise, qui travaille le trait, qui ne travaille pas les ombres, comme on l'aurait pu leur apprendre à la Royal Academy. Mais qui va donc insister sur la figure, sur des traits très précis, et qui en partie influencera par exemple Walt Disney, pour certains de ses personnages. Et il y a un dessin formidable de Millet, dont je peux vous parler, qui représente le pillage de la tombe de la reine Mathilde, où on a l'impression d'être devant une BD avec des caractères très truculents, donc les pilleurs d'un côté, les nonnes de l'autre qui s'opposent au pillage, et tous ces personnages sont réalisés à partir de quelques traits, et la scène est scindée en deux par la figure de la mère supérieure qui domine le dessin. Et c'est vraiment uniquement par le dessin et par ces traits précis que la composition est structurée. Il y a très peu d'ombre, très peu d'effets de lumière, etc. Et ça, c'est très très novateur pour l'époque.
Alors, on va parler de la représentation probablement réaliste, mais aussi peut-être de la représentation de la nature. Je voudrais qu'on écoute un instant ce que dit Ruskin avec cette idée étrange de fidélité à la nature.
Aller à la nature en toute simplicité du cœur et marcher avec obstination et foi, sans autre pensée que de pénétrer au mieux sa signification, sans rien rejeter, rien sélectionner, rien mépriser. Il s'agit d'éduquer la main et le regard, non pas dans une perspective utilitaire et professionnalisante, mais surtout philosophique et sociale. L'observation de la nature, préliminaire à un dessin correct, embellit la vie et lui ouvre ainsi son esprit.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'art et la matière, et nous sommes en train de parler des pré-raphaélites, et nous venons d'entendre ce texte sur la nature, et la nature tel que l'imagine Ruskin, le critique d'art attitré au fond des pré-raphaélites, jusqu'à une rupture qui va être célèbre, vous allez nous expliquer pourquoi, Aurélie, eh bien, il regarde effectivement la nature comme s'il ne fallait rien oublier. C'est un regard de myope qui a le nez sur chaque fleur. Vous ne trouvez pas, Aurélie Petiot ?
C'est un regard, en effet, qui est très précis. Ruskin lui-même dessine, va vraiment observer la nature, mais pour lui, ça a une valeur morale. Donc le fait de pouvoir représenter la nature, ça permet de se rapprocher à Dieu également. Et l'expression qu'il utilise, qui est difficile à traduire en français, c'est « truth to nature », donc la vérité, mais le tout, c'est pour ça qu'on traduit « fidélité à la nature ».
En fait, c'est comme rendre justice à la nature, non ? C'est pas ça, « truth to nature », il y a quelque chose de... on lui doit bien ça.
Voilà, il y a un devoir moral, et il y a en ce moment de nombreux travaux qui s'intéressent à la pensée écologique de Ruskin. Et ce qu'on voit dans le tableau d'Ophélie, par exemple, de Millet, ce tableau très célèbre qu'on a en tête dès qu'on parle des pré-raphaélites, de cette jeune femme qui est allongée dans l'eau, qui vogue à sa mort.
Mais
qui...
Alors c'est l'icône des pré-raphaélites, on peut dire. Hein.
C'est l'icône à la fois par sa facture qui est minutieuse, qui a demandé de nombreuses heures de dessin devant la rivière sur laquelle, devant laquelle Millet avait posé son chevalet pour pouvoir intégrer les éléments de la nature. On n'est pas encore tout à fait dans la peinture de plein air, puisqu'il réalise le visage d'Ophélie dans son atelier, avec une anecdote qui est très célèbre, il y en a de nombreuses chez les pré-raphaélites, mais celle-là est peut-être la plus connue, où son modèle, Elisabeth Sidal, qui est sa muse, et qui sera ensuite l'épouse de Rossetti, pose
et qui est artiste en plus.
Et qui est artiste également.
Ça ne m'a pas échappé parce que je vous sens venir dans quelques temps pour dire mais on n'a pas parlé des femmes du monde du milieu pré-raphaélite et qui étaient elles aussi des artistes honteusement dissimulées par Hunt contre lequel vous gardez une dent un peu dure. Il fait quelle taille ce tableau à peu près?
Il fait 76,2 par 111,8 cm.
Vous avez une mémoire qui vous avez même les 111,8. Non, alors ça m'impressionne.
Non.
Et donc, premier plan, donc cette grande horizontale argentée, comme ça, ce corps qui flotte, oui. Tout en bas, un vert incroyable. Hein, c'est pas le vert anglais, le vert des iris, comme ça, qui apparaît.
Alors là, je ne suis pas d'accord. Pour avoir vécu en Angleterre, je veux dire que le vert anglais
c'est
est
exactement
très
ça.
Puissant. Peut-être que c'est dû à la pluie. Mais ça, c'est pareil, on pourra en reparler. C'est un caractère, la britannicité aussi, météo, qui revient très souvent. Oui, cette figure qui est allongée comme ça, où les éléments décoratifs, donc la robe et les motifs floraux de la robe d'Ophélie, cette robe blanche qui contraste avec le vert, ces éléments décoratifs floraux se mêlent aux fleurs qu'elle tient dans sa main, qui accompagnent sa destinée funeste. Ophélie, qui donc est modelée sur le visage d'Elisabeth Sidal, qui avait frôlé la pneumonie en posant trop longtemps dans la baignoire de Millet, et dont le père avait ensuite refusé qu'elle continue à poser. Et cette Ophélie a vraiment... Et les dessins préparatoires à l'œuvre montrent vraiment l'attention aux détails, à l'expression du visage. Elle a la bouche entrouverte, les yeux mi-clos, dans une expression très tragique.
Et les mains sortent de l'eau comme ça, c'est extraordinaire ce geste.
Comme une prière, comme aussi un signe d'abandon à la fatalité. C'est un sujet qui est tiré de Shakespeare, évidemment. Shakespeare qui, sur la liste des immortels, avait 3 étoiles. Et elle est entourée de végétation, mais pas une végétation idéalisée. On voit les roseaux, par exemple, qui montrent des traces de pliures. Certains brins sont marrons, sont déjà également en train de pourrir, comme on peut l'imaginer. Imaginer qu'Ophélie...
Oui, il y a une relation à la corruption, en fait, aussi dans ce tableau, probablement.
Oui, à la corruption morale, mais aussi à la corruption de la nature.
Corruption du corps, probablement.
Tout à fait.
De la noyer. Et il y a quelque chose qui est caractéristique, qu'on va retrouver toujours, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas un détail qui ne soit pas représenté de façon équivalente, qu'on soit vers le fond, vers le premier plan, etc. C'est comme si, contrairement à la photographie, par exemple, il n'y avait pas de flou au loin.
Exactement. Leurs œuvres sont très souvent comparées à la photographie, que ce soit de façon positive ou négative. On insiste sur le réalisme des pré-raphaélites. Et cette attention aux détails est très importante, puisque c'est d'abord l'arrière-plan qui a été dessiné et ensuite la figure principale. Donc c'est la nature qui fait autant sujet que la mort d'Ophélie. Et cette non-hiérarchisation des éléments, que ce soit dans la peinture de paysage ou dans les sujets plus historiques, fera dire à une spécialiste anglaise, Elizabeth Pratt-Jones, que l'art pré-raphaélite est un art démocratique, puisqu'il n'établit pas de hiérarchie entre les éléments.
Alors, il y a une phrase sur ce tableau qu'on regarde qui n'est pas très sympa de Théophile Gautier. Vous vous en souvenez? Moi, je m'en souviens. C'est une poupée qui se noie dans une cuvette. C'est quand même... La critique française n'est pas tout de suite convaincue.
Non, la critique française met un certain temps. Et on peut dire qu'il faut attendre les œuvres de Burne-Jones, donc de la seconde vague pré-raphaélite.
Oui, parce que on va continuer à parler un peu de la première vague, parce que c'est un petit peu une redécouverte dans votre livre, je trouve, que de redécouvrir le déploiement fantastique et fondateur de cette première vague. Mais c'est vrai que Burne-Jones, qui vient d'avoir une exposition extraordinaire, donc à Londres, à la National Gallery, est un peintre immense qui est un peu plus connu en France.
Oui, et c'est dommage, puisque ces œuvres pré-raphaélites des années 1848-60 sont extrêmement intéressantes, et Burne-Jones, même si son esthétique est complètement différente, n'aurait pas pu exister sans les œuvres de ses prédécesseurs.
C'est un peu la version Game of Thrones du monde médiéval, non? Vous ne trouvez pas que ça a un côté héroïque fantasy?
C'est comme ça, en tout cas, que certains spécialistes expliquent l'attrait que les œuvres de Burne-Jones ont encore sur les spectateurs contemporains, parce que ce sont des œuvres qui ne sont pas forcément faciles d'abord non plus, qui parfois n'ont pas de sens, en tout cas Burne-Jones refuse d'en livrer le sens.
Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de sens d'ailleurs, hein, parce que ce n'est pas crypté selon vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est symboliste justement, c'est-à-dire la résonance d'une signification, ou est-ce que c'est symbolique avec un sens particulier?
Je crois que chez Burne Jones, c'est ni l'un ni l'autre.
Non, c'est bon, j'accepte votre critique de l'intervieweur.
Je crois qu'il avait une vision qui lui était très spécifique, qui n'est pas symboliste, même si elle a inspiré des symbolistes, et qui n'est pas symbolique non plus, puisqu'au contraire de ses œuvres où, comme on l'a décrit tout à l'heure, Isabella et Lorenzo, on peut décrypter des éléments narratifs dans des détails décoratifs, chez Burne Jones, le sens échappe. Alors, en effet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens, mais le sens échappe néanmoins au spectateur. Et Burne Jones refuse de livrer ce sens, mais c'est peut-être parce que lui-même...
Je trouve que c'est pas nécessaire d'en rajouter une couche, comme on dit vulgairement. Est-ce que on peut revenir une seconde à Millet, parce qu'il y a une critique que je voudrais vous faire entendre, et ensuite vous allez nous décrire la vérité de ce tableau et son importance peut-être, qui est une critique de Dickens. Pourtant, Dickens, on se dit, autant les Français peuvent être vaches, mais Dickens, qui lui est sensible aux soucis sociaux qu'on sent souvent chez Préraphaélite, devrait adorer le travail de Millet. C'est le Christ dans la maison de ses parents. Écoutons ce qu'en dit Dickens.
Vous êtes à l'intérieur de l'atelier d'un charpentier. Au premier plan de l'échoppe, vous voyez un garçon hideux, aux cheveux roux et au cou décharné qui pleurniche en chemise de nuit. Il semble avoir été blessé à la main par le bâton d'un autre garçon, avec lequel il a joué dans un caniveau voisin, et il soumet sa plaie à l'inspection d'une femme agenouillée dont la laideur est si repoussante que, en admettant qu'un être humain puisse exister un seul instant avec une gorge à ce point désarticulée, elle trancherait sur le reste de la compagnie comme un monstre dans le plus vil des cabarets français ou la plus sordide des caves à gin anglaises. Partout où il y a moyen d'exprimer la laideur d'un visage, d'un membre ou d'une attitude, vous la trouverez exprimée.
Ce commentaire sarcastique, c'est celui de Dickens, et nous parlons de Dickens parce qu'il commente un tableau de Millet, et nous-mêmes, nous parlons du livre qui vient de sortir chez Citadel Masno, Les Préraphaélites, et je suis avec son auteur, Aurélie Petiot, historienne de l'art, et qui nous commente l'ensemble de ce mouvement. Et alors, vous trouvez pas que, cher Aurélie, qu'il est d'une violence absolument injuste, parce que il y a un souci social dans la représentation du travail chez les Préraphaélites que on pourrait imaginer extrêmement sensible chez Dickens. On a Oliver Twist en tête, nous les Français.
Oui, alors cette critique est très violente et bizarre dans la bouche de Dickens, mais c'est une critique qui porte à la fois donc sur le genre et sur la classe. On a cette expression dans le plus vil bordel de Paris ou de France. Et surtout, ce qui choque, c'est pas forcément de représenter une classe d'ouvriers, mais c'est de représenter la famille sainte comme étant une classe d'ouvriers. C'est ça qui fait problème à l'époque. Ce sont les ongles noircis du jeune enfant qui vient de se blesser à la main.
Donc ça, c'est un sacrilège, en fait.
Voilà. C'est de...
Pourtant, Caravage avait fait la même chose sur les ongles de pied de la Vierge.
Oui, alors là, Dickens, je crois, n'a pas Caravage en tête.
Ah, voilà.
Et la critique est vraiment, c'est une des premières œuvres des débuts. Au début, les Préraphaélites ne sont pas très bien reçus par la critique anglaise. Et ce tableau, notamment, qui se veut extrêmement réaliste, qui propose plusieurs lectures, une lecture religieuse, évidemment, avec tous ces symboles dont on a déjà parlé, la blessure que le jeune Christ a dans la main, qu'il montre à sa mère, montre les stigmates qu'il recevra plus tard. La position de la Vierge aussi éplorée rappelle d'autres tableaux religieux. Et ce sont ces symboles qui vont perturber la lecture qu'en font les contemporains de cette idée de désacralisation d'une scène religieuse qui ne va pas donner au tableau l'écho qu'il aurait dû recevoir.
Alors, moi, c'est un tableau que je trouve extrêmement fascinant, bien que j'en trouve les symboles un peu direct, au fond. Je trouve qu'il y a une littéralité, et ça se lit trop bien, quoi,
ah
presque,
oui, c'est
non?
Très évident, c'est plus facile qu'Isabella et Lorenzo. L'établi, par exemple.
Il faut dire qu'on connaît mieux l'histoire, hein.
Voilà.
Parce qu'Isabella et Lorenzo, on n'est pas nombreux à connaître l'histoire. D'ailleurs, moi, je ne la connaissais pas avant que vous en parliez.
On en connaît la fin, surtout. Et donc, cet établi central sur lequel, autour desquels tous les personnages sont organisés, évidemment, préfigure la croix sur laquelle le Christ sera crucifié. Et en effet, c'est peut-être un symbolisme très littéral, mais qui aurait dû justement frapper davantage, être beaucoup plus lisible. Il y a un effort donc de réalisme, avec aussi le costume assez oriental d'un des ouvriers, avec tous ces détails sur la physionomie des personnages, les copeaux de bois également qui ont été l'objet d'un travail minutieux. Ce travail dont on parlait tout à l'heure, la sincérité à la nature, qui fait aussi pour Ruskin la valeur morale des peintres, puisque l'attention aux détails et donc ce travail réalisé montre la valeur travail à laquelle sont attachés les pré-raphaélites.
Alors, je voudrais vous attirer sur un tout autre sujet. On va abandonner Jésus, très provisoirement, bien entendu. Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu de deux choses. D'abord, la représentation sexuelle chez les pré-raphaélites. Alors, quand je dis sexuelle, c'est au sens littéral, c'est pas de l'acte sexuel, bien entendu. C'est comment est-ce que sont sexués les personnages? Ça a été très remarqué. Je vais vous dire une phrase de Zola et j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Il dit « Zola s'insurge ». Donc, c'est vous qui l'écrivez. Zola s'insurge contre, et vous citez, ces vierges insexuées qui n'ont ni sein ni hanche, ces filles qui sont presque des garçons, ces garçons qui sont presque des filles, ces larves de créatures sortant des limbes. Ah, le vilain monde, cela tourne au dégoût et au vomissement. Et ça, c'est dans un chapitre que je trouve formidable, que vous appelez de queer à queer. Et vous faites des pré-raphaélites les précurseurs du mouvement queer, qui voulait dire à l'époque bizarre, étrange, anormal.
Voilà. Alors c'est une citation qui s'attache plutôt aux œuvres de la deuxième vague, donc les œuvres de Burne-Jones à partir de 1860 et plus tard. Et le mot queer, alors ce n'est pas moi hein, qui établis cette correspondance, mais le mot queer au début, à l'époque victorienne, signifie déviant de la norme, maladif. Et on a souvent reproché à Burne-Jones ces tonalités très pâles pour ses personnages, mais aussi l'absence de musculature de certains de ses personnages, ce qui n'est pas valable pour toutes ses œuvres, hein, puisque dans par exemple La Roue de la Fortune, qui est l'un des seuls tableaux français, seul tableau conservé dans un musée français, où sont représentés un roi, un poète et un mendiant, la musculature masculine est très présente. Mais dans d'autres œuvres, les corps sont un peu plus indistincts, les chairs sont aussi traitées différemment, et cette peur de l'indifférenciation des sexes se retrouve beaucoup dans le vocabulaire de la critique anglaise et française. Je me permets aussi de citer Mirbeau, oui, qui écrivait que leur héros pue la sodomie, la névrose et la syphilis. Et c'est un sujet, la représentation du genre des personnages, qui va dévier ensuite vers une peur de l'infection de ce modèle d'indifférenciation des sexes pour le spectateur, qui sera lui aussi contaminé par ce mélange des genres, et ensuite pour la nation, puisque si les peintres qui font l'école anglaise se représentent des sujets au sexe indéterminé, alors, avec un petit peu d'exagération.
Alors moi, je trouve que la citation de Henry James, que vous avez à la fin, donne le côté extraordinairement précurseur et positif de ces personnalités qui essayaient de chercher un au-delà des évidences conventionnelles de l'époque.
Tout à fait.
Donc, c'est vous qui citez Henry James, je le lis pour le public. « Elles sont sublimement asexuées et prêtes à endosser tout charme de la masculinité ou de la féminité que l'imagination puisse désirer. » Et vous concluez, « Cette ouverture des possibles est précisément ce que revendiquent les études queer. » Cet élargissement et cette sortie du binaire, en fait.
Tout à fait. Et c'est d'autant plus évident dans les œuvres de Simeon Solomon, qui est un peintre pré-raphaélite qui a été un peu évincé de l'histoire pré-raphaélite parce qu'il a été emprisonné pour homosexualité.
Comme le sera Oscar Wilde, il faut se rendre
exactement
compte qu'à cette époque-là, jusqu'en 1967, je pense que c'était puni, l'homosexualité en Angleterre.
Tout à fait. Et si certains pré-raphaélites vont l'aider à sa sortie de prison, essayer de financer un peu son...
rétablissement, en fait, hein, voilà. Dans la société, oui.
Il sera néanmoins effacé de la production pré-raphaélite. Et,
vous avez un très beau tableau, là. Vous pouvez le décrire.
Alors, j'ai sous les yeux l'aube, qui fonctionne, je pense, très bien avec un autre tableau de Solomon, qui est une représentation de Bacchus. Donc, on parle souvent des portraits de jeunes femmes sexuées ou sensuelles, en tout cas, des pré-raphaélites.
Il faut dire qu'il y en a quelques-unes, la bouche ouverte, qui sont un peu troublantes. Je pense à un célèbre baiser, dont le propriétaire, on avait peur que, si on voulait le voir, que, ce que vous dites, c'est quoi? Il faut se précipiter pour y aller parce que le propriétaire l'aura tant embrassé que vous ne pourrez plus le voir.
Voilà.
Qu'il sera déjà effacé, quelque chose comme ça.
Donc on parle souvent des femmes fatales, entre guillemets, puisqu'on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, aux pré-raphaélites, mais très peu des hommes fatales. Et on aurait pu penser que les femmes pré-raphaélites auraient peut-être pu aussi transgresser, ces préceptes.
Oui, mais... C'est vrai que vous parlez des hommes fatales. Il y a le tableau Phyllis et Démophon, qui était le tableau de Burne-Jones, je crois, avait été censuré, ou en tout cas avait énormément choqué, non?
Oui, parce qu'il y a très peu de tableaux qui représentent des nus chez les pré-raphaélites. Et Phyllis et Démophon représentent un homme nu, alors que la femme est elle couverte.
Avec son sexe parfaitement visible, les jambes légèrement écartées. Enfin, on a trouvé ça d'une indécence totale. Alors qu'en fait, il est extraordinairement sobre et presque chaste, je dois
dire. Tout à fait. Il fait référence aussi à la Renaissance italienne. On voit très bien l'influence de Botticelli aussi dans le drapé. Il n'y a rien de choquant, en tout cas, pour nous, et même à l'époque victorienne. Quoique la reine Victoria avait, par exemple, accueilli la statue de David au Victoria and Albert Museum. Et on avait
celle de Michel-Ange, je voulais dire.
Voilà, on avait réalisé un cache-sexe en forme de feuille de vigne pour ne pas la choquer. Donc c'est aussi cette...
Par vengeance, je voulais dire que la culotte de la reine Victoria a été vendue aux enchères il n'y a pas très longtemps, et elle est immense.
J'ai vu.
Pourquoi est-ce que vous dites je veux revenir sur la question de la femme fatale? Pourquoi
Parce que la femme fatale...
Vous trouvez que c'est devenu un lieu commun, trop commun, dans le regard sur les pré-raphaélites?
Oui, en tout cas en France... c'est ce qu'on connaît du pré-raphaélisme, c'est ce qui est montré dans les expositions. C'est également la couverture que l'on a choisie parce que c'est ce que le public connaît. Il y a de nombreuses expositions qui ont eu lieu récemment, des années 1990 aux années 2000.
Mais vous ne pouvez pas dire, je m'excuse, je reviens sur la femme fatale de la couverture. Donc c'est, oui. Qu'est-ce que c'est comme tableau?
C'est un tableau de Burne-Jones qui représente... Non, pardon, de Rossetti, qui représente Jane Morris, donc une amie du cercle pré-raphaélite.
Avec une grenade dans la main.
Qui tient dans sa main une grenade.
Symbole de fécondité,
voilà,
quand c'est une vierge.
Voilà, symbole de fécondité.
Mais là, il faut dire que l'ouverture de cette grenade est incroyablement sexuée. On peut pas dire le contraire.
Tout à fait. On ne peut pas éviter la comparaison.
C'est extrêmement tentateur. Donc, je pense que vous avez gagné quelques acquéreurs de votre livre aussi à cause de cette couverture.
C'est justement ce qu'on connaît très souvent, ces femmes à la peau très blanche, à la chevelure soit très rousse, soit très brune, au regard un peu perdu, aux lèvres très ourlées, à ce que une historienne de l'art français a appelé ces héroïnes hyperthyroïdiennes. Et on retrouve très peu cette façon de représenter les hommes avec autant d'attributs sexués, sauf peut-être dans le Phyllis et Démophon de Burne-Jones dont on parlait tout à l'heure.
Alors, puisque vous ne voulez pas parler de ces jeunes femmes sexuées, je voudrais vous emmener vers quelque chose qui est une des originalités de votre livre, c'est que vous allez assez loin sur la description de l'influence qu'ils ont eue sur les arts décoratifs, et ça c'est extrêmement important. Pour introduire ce chapitre, je voudrais vous faire écouter un petit texte de William Morris, Art Under Plutocracy, 1883.
Force est de le constater, à présent tout ce qui est produit de la main humaine est d'une laideur patente, à moins qu'un effort spécifique ne vise à l'embellir. À cette fausse décoration qui ne vise à donner le moindre plaisir à personne, s'attache tant de vulgarité et de stupidité que le mot « décoration » a acquis une sorte de sens second, révélateur du profond mépris qu'inspire à toute personne sensée de telles fariboles.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, et nous avons abordé assez largement cette question magnifique du pré-raphaélisme, ce mouvement très étrange, pas intemporel, parce que très lié à son temps, n'est-ce pas, Aurélie Petiot?
Oui, tout à fait, lié à la société victorienne. On a parlé tout à l'heure des codes et de la pudeur, la pudibonderie même victorienne.
Il y a aussi un engagement politique dans le réel social.
Voilà, que l'on retrouve dans les œuvres peintes. Donc, dans une œuvre, par exemple, de Brown qui s'appelle Work, le travail, et qui dépeint toutes les couches de la société victorienne.
En un seul tableau.
Un seul tableau, qui est très difficile à lire quand on... Quand on vient du 21e siècle, quand on ne connaît pas les acteurs de cette conscience sociale et morale envers l'ouvrier, la prostituée est aussi un sujet de prédilection de certains préraphaélites.
On sent avec une empathie terrible, c'est pas du tout la prostituée comme sujet aguichant comme ça qu'il y avait pu y avoir dans l'Art Nouveau. C'est vraiment la prostituée malheureuse, réprouvée, une allusion aux 80 000 prostituées de Londres. Alors parmi elles, il y a des femmes non mariées, donc on ne peut pas tout à fait comparer à cela. Enfin, les 30 000 prostituées quasiment professionnelles de Londres à cette époque-là, et qui est visiblement créé un souci et une empathie de la part des artistes très forte.
Oui, alors ces peintures sociales sont, je les appelle des peintures d'histoire, parce que Courbet disait que les peintres contemporains sont les seuls à pouvoir représenter leur époque. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est ce que font les pré-raphaélites. Ils sont tous engagés socialement, dans l'éducation également, dans des collèges pour ouvriers qui vous donnent des cours du soir, dans aussi le prêt d'œuvres pour des expositions qui soient accessibles à la classe ouvrière de Londres. Et cette représentation de la misère sociale, surtout de la femme qui souffre de cette misère genrée, comme l'a appelé Linda Nochlin, est extrêmement importante, même si elle ne fait pas partie de la production la plus foisonnante des pré-raphaélites. Et on la retrouve également dans les arts décoratifs.
Alors ça, c'est ce dont vient de parler William Morris.
Exactement. Donc
et je voulais qu'on en parle parce que, au fond, il y a la volonté de parvenir à une transformation sociale par une relation entre l'art et l'industrie, au fond, à ce moment-là.
Tout à fait. C'est vraiment l'importance la plus fondamentale pour moi des travaux de William Morris, qui sont des travaux qui ont trait aux arts décoratifs. Mais je ne crois pas qu'il faille dire que c'est le pré-raphaélisme qui a une influence sur le mouvement Arts and Crafts. C'est vraiment deux domaines qui se développent en parallèle.
Vous voulez dire que vous ne voulez pas considérer William Morris comme un artiste pré-raphaélite ?
Si, justement. Je veux juste qu'on évite d'établir une hiérarchie entre les beaux-arts et les arts décoratifs.
Ah, oui.
Puisque c'est ce que fait Emilien Maurice également. Ça, parfois, certains meubles peints par Burne Jones et dessinés par lui donnent l'occasion, sont l'occasion de tableaux sur le même sujet. Donc, il n'y a pas de hiérarchie ou de prééminence des beaux-arts par rapport aux arts décoratifs. Et ce que veut faire William Maurice, c'est vraiment donner l'accès à tout le monde, à une production qui soit simple mais belle. Et c'est surtout lui qui va penser l'objet en fonction de sa fonction. Donc, penser la forme en fonction de la fonction, de travailler sur des objets qui soient abordables, même si ça reste utopique, au peuple anglais, et surtout sortir de cette déshumanisation qui était vraiment le fait de l'industrialisation, aussi de la pollution dont il parle souvent. Et c'est pour ça que même dans les vitraux ou les tapisseries, il la recourt à des couleurs qui sont très 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 dynamiques, comme dans les tableaux pré-raphaélites, des couleurs très vives. Et c'est également pour cela qu'il va insister sur le motif. On retrouve l'idée de narration dont on avait parlé tout à l'heure sur la peinture pré-raphaélite. C'est pareil pour le motif du mouvement Arts and Crafts. Donc ce motif qui se doit d'être lisible, qui doit être répété, mais pas comme ce qui se faisait à l'époque, où les motifs s'enchevêtraient, les laits de papier peint accumulaient des scènes qui étaient répétées. Chez William Morris, le motif et l'expérimentation dans des techniques qui reviennent parfois aux techniques médiévales, dans l'imprimerie, dans le tissage, pour le papier peint également, donne la part belle à l'ouvrier. Alors même si, encore une fois, c'est un peu utopique, puisque parfois, dans le mouvement Arts and Crafts, alors le terme de mouvement est un peu contestable.
Pourquoi c'est pas contestable? Moi, je trouve que c'est un vrai mouvement avec une sorte de volonté d'associer artisans, artistes, ouvriers dans une redéfinition de l'environnement complet qui a une influence sur l'architecture, en fait sur une œuvre d'art totale. On retrouvera ça dans le Bauhaus, non? Vous trouvez pas qu'il y a un lien
Alors tout à fait, l'influence du mouvement Arts and Crafts sur les arts décoratifs européens ensuite sera très importante. C'est plutôt quand on creuse à l'intérieur du mouvement, quand on regarde les affiliations politiques. William Morris était socialiste et anarchiste, d'autres étaient beaucoup plus conservateurs. Et la pratique se fait en petites guildes, souvent essaimées dans la campagne anglaise, autour d'une même idée, celle de redonner à l'artisan sa place dans le processus créatif.
Ce qui fait partie de l'attirance médiévale qu'ils ont les uns et les autres, au fond.
Tout à fait, hein. D'ailleurs le mot guilde est très parlant
ouais,
à ce
tout
sujet.
Tout à fait, tout à fait.
Et le refus de la mécanisation, même si c'est pareil, il est limité. Maurice utilisera la machine. Et l'entreprise qu'il va fonder avec Burne Jones et d'autres deviendra aussi une forme de commerce. Bien plus qui dépassera l'artisanat qu'il avait souhaité.
Vous trouvez que y a un aspect que j'ai pas très bien compris, parce que quand je vois les images extraordinaires de ces œuvres, la différence par rapport à ce qui va se passer ensuite dans l'Art and Craft, alors pas au Japon parce que l'influence est très directe dans un sens comme dans l'autre,
oui.
D'ailleurs,
hein,
mais en Allemagne, c'est que il y a un souci néanmoins du décoratif, c'est-à-dire de l'arabesque, de d'une élégance très sophistiquée, que les mouvements suivants vont essayer de limiter de façon à ce que la beauté devienne extraordinairement minimale. Et là, on est au contraire, c'est pas maximal, mais on est dans une élégance très très éloquente, en tout cas.
Alors, au début, tout à fait, avec les œuvres, par exemple, de Charles Robert Ashby, qui utilise les éléments fonctionnels, par exemple, de la carafe à vin, l'anse, comme des tiges végétales, qu'il va travailler également le verre et l'argent pour donner un attrait végétal à ces formes. Mais ce qu'il va surtout avoir une influence sur les arts décoratifs continentaux, c'est la pratique. Donc le fait d'éduquer l'artisan en faisant et non pas avec des cours théoriques comme c'était le cas à l'époque. Et ce sont aussi les œuvres de Charles Vanney McIntosh et Margaret MacDonald.
On en parle les larmes aux yeux parce qu'il s'est passé quelque chose de très très grave l'année dernière qui nous attire, qui tire les larmes.
À deux reprises, un incendie s'est déclaré dans la bibliothèque de la Glasgow School of Art.
Une des plus belles bibliothèques du monde avec,
voilà.
Et entièrement faite par McIntosh et sa femme.
Et voilà, Margaret MacDonald.
C'est vous qui ne devez jamais oublier les femmes puisque vous en parlez beaucoup et vous rétablissez l'importance des femmes.
J'ai mentionné son nom. Eux vont vraiment développer autant que William Morris la pratique d'un art total, donc l'architecture extérieure mais aussi le décor intérieur, des appliques lumineuses au papier peint, aux meubles, à la cheminée, tout en géométrisant davantage les formes. Et ça aura un attrait assez fort sur les membres du Bauhaus, mais aussi sur des architectes comme Frank Lloyd Wright, par exemple, aux États-Unis.
Oui, et qui reprendra aussi, effectivement, les vitraux et des principes un petit peu semblables. Aurélie Petiot, merci infiniment de nous avoir parlé de votre livre, Le Pré-Raphaélisme. Merci de nous avoir montré comment ce mouvement né de l'amitié de trois garçons et de quelques femmes merveilleuses a permis une transformation complète de la sensibilité et de l'environnement et qui a des conséquences encore aujourd'hui, parce qu'on aurait pu parler aussi de David Bowie, de Gilbert et Georges, de Marcel Duchamp.
Christine and the Queens.
Christine and the Queens, voilà, exactement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Aurélie Petiot pour son livre Le Pré-Raphaélisme qui vient de sortir chez Citadel Masno et qui est passionnant. Vous retrouverez les références de ce livre et des musiques sur franceculture.fr, notre site. Lecture des textes, Andrea Brusque. Une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son, Alain Joubert. Réalisation, Thomas Jeune. Merci Thomas. La semaine prochaine, nous parlerons de la Renaissance sauvage, l'art de l'Anthropocène. Comment est-ce que les artistes de tous les temps nous parlent d'une autre relation à la nature et nous permettent d'imaginer un accord, une nouvelle alliance possible. Et finalement, c'est pas si loin de ce que l'on vient de vivre avec cette question du préraphaélisme. À 15h30, vous retrouvez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.